l'Église, plus exactement. Et on va poursuivre notre étude sur le protestantisme de langue française au XIXe siècle. Notre premier point sera de parler de conflits ecclésiastiques qui ont éclaté en cette période, en Suisse romande en particulier. Nous avons vu qu'avec le réveil du début du siècle, apparaissent à Genève des groupes dissidents. Et cela va poser problème. Ces groupes dissidents prennent le nom d'églises libres, c'est-à-dire que ce sont des églises qui ne sont pas des églises d'État, qui ne sont pas reconnues par l'État et qui ne sont pas subventionnées par l'État. Et ces églises libres issues du réveil se rassemblent dans une association chrétienne évangélique. C'est le nom qu'ils prennent. Et cela provoque des réactions négatives de la part des autorités politiques de Suisse romande, dans la mesure où, jusqu'alors, l'Église était Église d'État. Les Églises étaient Églises d'État. Par conséquent, l'État avait son mot à dire dans l'administration des Églises. Et notamment dans le canton de Vaud, les autorités cantonales prennent des mesures hostiles contre cette association chrétienne évangélique qui est vilipendée, un petit peu comme le sont les sectes de nos jours, et qui subit des mesures coercitives très fortes qui ont pour but de nuire à la bonne marche de ses activités. Et finalement, l'association n'est pas enregistrée comme une association légale. Elle est déclarée illégitime par les autorités cantonales du canton de Vaud, de telle manière que finalement une petite guéguerre va durer sur le plan juridique un certain nombre d'années, de telle manière qu'au bout du compte, les assemblées qui se sont réunies dans cette association vont jeter l'éponge et l'association va se dissoudre d'elle-même, quoi, sans simplement parce qu'elle n'est pas reconnue. Et petit à petit, les différentes églises qui composent l'association vont rejoindre les assemblées de frères, qui naîtront un petit peu plus tard. Néanmoins, la création de ces églises libres, qui ne peut plus passer maintenant comme un fait inaperçu par les autorités romandes, fait que la question de la liaison entre l'Église et l'État se trouve posée en Suisse romande. De telle manière que, en 1839, une loi abolit la confession de foi de l'Église nationale. Ça, c'est une chose tout à fait intéressante de noter, parce que, en même temps, se pose aussi la question des confessions de foi. Le fait, n'est-ce pas, qu'il y ait des églises libres vient du fait que ces églises libres ne se reconnaissent plus dans la confession de foi des églises nationales, qui est une confession de foi libérale. Et de ce fait, les églises libres ont des confessions de foi beaucoup plus bibliques et beaucoup plus évangéliques. De telle manière que l'Église nationale, plutôt les autorités politiques, décide d'abolir la confession de foi de façon à permettre aux églises libres de rejoindre l'Église nationale. Finalement, chaque église étant déclarée libre d'avoir sa propre confession de foi, à condition néanmoins que l'on reconnaisse l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État sur l'Église est quelque chose qui est fortement réaffirmé. Non seulement la plupart des églises libres ne se rallient pas à cette solution assez boiteuse, finalement, mais également en 1847, de nombreuses églises qui faisaient jusqu'alors partie de l'Église nationale la quittent l'Église nationale et de nouvelles églises libres sont créées, notamment sous la direction du pasteur Vinet. Et il faudra attendre 1966, plus d'un siècle, pour que cette union des églises libres rejoigne l'Église nationale. Dans le canton de Châtel, dès le début du siècle, les églises libres, qui sont issues du réveil, rejettent le baptême des enfants. Et ceci, évidemment, creuse encore un peu plus le fossé entre les églises nationales et les églises libres. Et donc, le même phénomène se produit que dans le canton de Vaud, à savoir qu'au milieu du siècle, l'État proclame que les pasteurs ne sont plus tenus d'être liés par un credo, mais que finalement, chaque pasteur peut, grosso modo, professer la foi qu'il souhaite. Alors voyez-vous, ça c'est quelque chose d'extrêmement grave, une évolution extrêmement grave, qui finalement va se répandre dans tout le protestantisme de langue française, en France également, en sorte qu'aujourd'hui on en est dans cette situation-là, où les églises officielles n'ont plus de confession de foi. Ce qui veut dire qu'on peut croire n'importe quoi, on peut croire tout et son contraire, il n'y a plus d'unité doctrinale du tout, non seulement du protestantisme, mais même des unions d'églises qui sont les plus officielles, mis à part peut-être l'église luthérienne. L'église luthérienne, il y aurait peut-être quelques nuances à apporter. Et ceci provoque finalement une perte d'autorité de la part de ces églises, autorité vis-à-vis de leurs fidèles, autorité vis-à-vis du monde extérieur et autorité vis-à-vis de l'État. Et une des grandes lamentations de la Fédération protestante, c'est que précisément, elle n'arrive pas à faire passer son message dans la société, mais c'est tout simplement parce que les églises protestantes ont perdu aujourd'hui toute autorité, parce que justement, elles ont scié la branche sur laquelle elles étaient assises, à savoir l'autorité d'écriture. Et c'est non seulement l'autorité des églises qui est ainsi battue en brèche, mais c'est également l'Église en tant qu'institution qui est complètement dévalorisée aux yeux des fidèles, puisque chacun peut croire ce qu'il veut, pourquoi encore a-t-on besoin d'Église ? Finalement, c'est la destruction de l'Église. Et on arrive à ce stade, à la fin de ce siècle, où des sociologues protestants se posent ouvertement la question, le protestantisme va-t-il mourir ? Et on peut se demander effectivement si le protestantisme n'est pas en train de mourir, tout simplement. Protestantisme historique en particulier, n'est-ce pas, mais pas seulement lui. Et à moins, je répondrai personnellement à cette question, qu'à moins d'un retour à l'écriture, un retour à l'autorité de l'écriture, donc un véritable réveil, effectivement, eh bien, l'avenir du protestantisme est extrêmement sombre. Extrêmement sombre dans nos pays. Ça a commencé là. En tout cas, cette prise de décision du canton de Neuchâtel, les autorités du canton de Neuchâtel, provoque des réactions très vives de toute l'aile évangélique de l'Église réformée du canton de Neuchâtel. Et c'est ainsi que, sous l'influence de Frédéric Godet, qui est un grand théologien, donc né en 1812, mort en 1900, une union des Églises libres se crée, qui adopte une confession de foi résolument évangélique, parce que Frédéric Godet est un homme qui est profondément évangélique. Entre parenthèses, si vous voulez faire de la bonne exégèse, de la bonne théologie, étudiez les œuvres de Godet, qui sont encore aujourd'hui éditées, bien que, bon, parfois un peu vieillottes, ça fait quand même ici plus d'un siècle, mais qui sont quand même encore aujourd'hui extrêmement intéressantes à étudier. Et il faudra attendre 1942, pour que la rupture donc soit à nouveau résorbée et que les églises libres du canton de Neuchâtel rejoignent l'église nationale. Voilà donc, si vous voulez, la situation pour ce qui est de la Suisse romande. Maintenant, nous allons passer à une autre région qui nous concerne beaucoup plus, c'est l'ouest de la France. La situation dans l'ouest de la France, au début de ce siècle, est une situation fort intéressante. C'est l'époque où l'Ouest va connaître aussi les retombées des différents réveils qui marquent le protestantisme de cette époque-là. Et l'Ouest va être au confluent de deux grands courants de réveil. Premièrement, le réveil de Genève, qui, bien qu'évidemment à l'autre bout de la France, aura quand même des retombées dans l'Ouest. Et puis aussi les réveils qui ont lieu de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire essentiellement en Grande-Bretagne, et plus particulièrement ici le méthodisme. Et au début du siècle, on assiste à un certain nombre de conversions en Normandie et en Bretagne. Conversion de gens qui sont allés en Angleterre ou dans des pays anglo-saxons, originaires soit de Normandie, soit de Bretagne, de gens qui, en principe, n'avaient pas d'attache au protestantisme et qui rencontrent là-bas le réveil méthodiste ou bien les réveils d'Amérique, n'est-ce pas, et qui se convertissent, reviennent en France pour y introduire ce qu'ils ont trouvé dans les pays anglo-saxons. Dans l'Ouest, l'influence du méthodisme anglais va être extrêmement forte. Il y aura aussi, hélas, l'influence du libéralisme dont nous avons parlé, qui se fera également sentir. Le réveil anglais, le réveil méthodiste en particulier, va pénétrer dans l'Ouest non seulement par des voyageurs, mais également par des missionnaires. Le XIXe siècle est le grand siècle de la mission. Et notamment, le monde anglo-saxon va être la cheville ouvrière de l'évangélisation, l'évangélisation du monde, disons le mot, n'est-ce pas ? Je crois qu'on compte qu'au moins 8 missionnaires sur 10 au XIXe siècle sont des anglo-saxons. C'est dire que l'influence du monde anglo-saxon à l'expansion missionnaire est considérable. Alors, on aura l'occasion de parler de cette grande expansion missionnaire, Hudson Taylor en Chine, Adoniram Judson en Birmanie, on a parlé du William Carey en Inde, etc., etc. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui se disent, mais après tout, il y a à nos portes aussi, n'est-ce pas, des gens qui ont besoin d'être évangélisés. Et c'est très bien d'aller aux extrémités de la terre, comme a dit Jésus, mais peut-être qu'il ne faut pas oublier non plus d'évangéliser la Samarie. Et pour les Anglais, la Samarie, c'est l'autre côté de la Manche. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de missionnaires méthodistes vont traverser la Manche pour venir prêcher l'Évangile dans l'Ouest. Le premier est le pasteur Mathé, M-A-T-H-E-Y, qui arrive en Normandie, donc c'est un méthodiste, et il va introduire le méthodisme en Normandie. La Normandie sera le premier bastion du méthodisme en France. Dans le même temps, un breton se nomme Patrice de Fogg, F-O-G-U-E-S, se rend en Angleterre, où il rencontre un des collaborateurs de Wesley, qui se nomme William Branwell. Et là-bas, sous l'influence de William Branwell, il se convertit. Et il devient pasteur, il étudie en Angleterre, dans les écoles bibliques méthodistes, et il est consacré pasteur, donc, en Angleterre, avec mission de revenir en Bretagne. Il arrive en Bretagne en 1801, et il commence à y prêcher l'Évangile. Le méthodisme est immédiatement catalogué, c'est assez amusant, comme une secte religieuse illuministe, donc particulièrement dangereuse, et dont il convient de se méfier spécialement. C'est dire que la tâche des premiers missionnaires méthodistes n'est pas de tout repos. Et finalement, Patrice de Fogg se casse les dents sur la Bretagne, il reste peu de temps en Bretagne, et il se rend à Paris. Il se rend à Paris où il fonde une église méthodiste avec un peu plus de succès. Il va donc s'installer à Paris et créer une église méthodiste là-bas. Néanmoins, les autorités françaises ne cessent de mettre en garde contre cette secte illuministe, cette secte qui se multiplie de plus en plus. Enfin, pas seulement celle-ci, mais toutes les sectes, n'est-ce pas ? C'est très intéressant, au début du 19e siècle, les autorités françaises mettent en garde la population contre les sectes, en disant que ces sectes se pullulent en France, n'est-ce pas, depuis l'arrivée de ces Anglais, et qu'elles se multiplient de plus en plus, et qu'il convient de prendre des mesures pour bloquer la progression des sectes. Je ne sais pas si ça, ce genre de propos vous dit quelque chose, et vous a des échos de déjà-vu dans vos oreilles, mais enfin, voilà. Alors, ordre est donné de dénoncer les sectes les plus dangereuses aux autorités, ce qui est fait, tant et si bien que beaucoup de ces gens, n'est-ce pas, ont fort ce problème. On trouve un deuxième personnage qui lui aussi va avoir le même cheminement. C'est un certain De Kerpezen, ça s'écrit K-E-R-P-E-Z-D-E-N, qui est un Morbihanais, qui plus est, n'est-ce pas ? Et qui, en 1891, quitte la France comme réfugié, puisque c'est l'époque où la Révolution bat son plein, c'est la terreur, n'est-ce pas ? Il se rend d'abord à Jersey, puis ensuite... Ah, qu'est-ce qu'il y a, Colette ?
L'orthographe.
K-E-R-P-E-Z-D-E-N. Donc, il se rend à Jersey comme réfugié dans un premier temps. De là, il passe à Ostende, puis il se rend à Bruxelles. Et c'est à Bruxelles qu'il se convertit. Il rencontre l'Évangile là-bas et il se convertit. En 1794, il retourne en Angleterre, puis à nouveau en Hollande, où il rencontre un autre converti breton qui se nomme Patrice de Pontavis. Et ces deux hommes prennent ensemble part au fameux débarquement des immigrés. En 1895, il épouse une certaine Elisabeth Moore, selon le rite anglican. Mais à cette époque-là, il fait encore baptiser ses enfants dans l'Église catholique. Il est en effet enseignant dans l'Église catholique. C'est en 1800 qu'il rencontre des missionnaires méthodistes, des pasteurs méthodistes, et qu'il se convertit véritablement. Il a le même itinéraire que son prédécesseur, et lui aussi, donc, est consacré pasteur méthodiste en Angleterre. Et en 1814, lui aussi débarque en Normandie comme missionnaire méthodiste. Là, il crée une église, bien sûr, mais aussi il crée une école. Comme la chasse aux sectes bat son plein, il est finalement amené à s'enfuir, après avoir essuyé un échec. Et en 1818, on le retrouve pasteur à Bruxelles, où il a entendu l'Évangile pour la première fois. En 1840, depuis Bruxelles où il est installé, il n'a pas oublié son pays natal, la France, et il continue à envisager une évangélisation du pays. Et c'est l'époque où la monarchie de Juillet, n'est-ce pas, a proclamé que le catholicisme est la religion de la majorité des Français, c'est-à-dire finalement une religion quasiment officielle, une religion en tout cas qui a prééminence sur les autres. Et depuis Bruxelles, où il est installé, il ne cesse de tempêter en disant que c'est absolument anormal que le catholicisme jouisse en France d'un statut de religion privilégiée. Il attaque la liberté de culte qui est malmenée en France, la difficulté qu'il y a à ouvrir des églises, à ouvrir des temples, et finalement, il réclame plus de liberté religieuse. Il meurt en 1854. Et un de ses disciples, qui se nomme Agénor de Caponin, C-A-D-P-O-N-I, va prendre la relève de son action et ne cessera lui aussi de militer pour la reconnaissance du protestantisme en France et pour, en quelque sorte, la totale liberté de culte en France, liberté qui n'est pas un fait acquis à cette époque-là. C'est en 1818... qu'un pasteur méthodiste qui se nomme Le Sueur arrive à Caen avec un couple de missionnaires anglais, Nordon Roller et un autre missionnaire qui se nomme Anis Olivier. Et c'est le début d'une action importante, cette fois-ci non plus pour le compte des méthodistes, mais ces trois missionnaires sont des baptistes. Et là, nous voyons justement une autre influence qui va s'exercer dans l'Ouest. Après l'influence du méthodisme, c'est l'influence du baptisme. Les baptistes, nous avons vu, sont surtout concentrés dans le nord de la France depuis l'influence des Anglais après la bataille de Waterloo. Et c'est surtout dans le nord de la France, l'Aisne, l'Oise, l'Est aussi ensuite avec Lyon, etc. Mais finalement, l'Ouest est peu touché par le baptisme. Il va l'être à partir de l'Angleterre. Donc d'abord la Normandie, Caen, c'est le premier endroit où débarquent des missionnaires baptistes. Et en 1822, le pasteur Jones débarque en Bretagne Jones est un Gallois qui arrive directement de là-bas. Et le pasteur Jones a le gros avantage de parler la langue. Vous savez que ça a été un des gros obstacles à l'évangélisation de la Bretagne au XVIe siècle, le fait qu'il n'y a eu personne pour parler la langue bretonne. Et par conséquent, seul le pays gallo a été évangélisé à cette période-là. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a eu personne non plus pour faire une traduction de la Bible en breton. Jones a étudié l'histoire, il s'est rendu compte que là, il y a eu une grave lacune, et que cette lacune, il faut la percer. Il n'a évidemment, en tant que gallois, qui parle le gallois à merveille, aucune difficulté à se mettre à la langue bretonne, et son premier devoir en Bretagne, c'est de traduire la Bible en breton. Pour cela, il s'acquiert la collaboration du premier breton converti par ses soins, qui se nomme Le Guélec, qui est né en 1895 et qui mourra en 1858, et qui possède le breton parfaitement. Ce n'est pas que Jones a des difficultés avec la langue bretonne, mais entre le gallois et le breton, il y a quand même un certain nombre de différences, et Jones ne veut absolument faire absolument aucune faute, n'est-ce pas ? Il veut que la traduction soit parfaite, et il s'assure donc les soins d'un bretonnant dont le breton est véritablement la langue maternelle. Et c'est ainsi que, en 1828, le premier exemplaire du Nouveau Testament en breton est édité, publié. Et puis en 1868, c'est l'Ancien Testament, c'est-à-dire toute la Bible. C'est à l'imprimerie Prud'homme de Saint-Brieuc que la première Bible en breton donc est éditée en 1868. Entre-temps, Le Guélec est mort, il est mort en 1838, et par conséquent, il n'a pas pu voir la fin de ce travail, mais néanmoins, il en aura été une cheville ouvrière extrêmement importante. En 1821, les méthodistes vont aussi s'intéresser à la Bretagne. Et c'est ainsi que la Wesley Biblical Missionary Society, société biblique missionnaire wesleyenne, envoie en 1832, 3 mois après l'arrivée de Jones en Bretagne, le pasteur John Jenkins qui s'établit à Morlaix. Avec la même préoccupation, John Jenkins est aussi un Gallois, c'est-à-dire quelqu'un qui parle la langue, qui n'a donc aucune difficulté à se mettre au breton et qui donc entend aussi faire une œuvre parmi la Bretagne bretonnante. À cette époque-là, la Bretagne bretonnante est vraiment bretonnante, le français y est peu parlé et mal connu, et par conséquent, il faut absolument posséder à fond la langue. En 1842, John Jenkins établit 2 annexes depuis Morlaix, une à Trémel, qui va grandir ensuite considérablement et qui va être une véritable Jérusalem évangélique, si vous voulez, dans la Bretagne, et puis le petit bourg de Plouganou. Lui aussi va se mettre à traduire la Bible en breton, et avec un autre breton d'origine aussi, comme l'avait fait le pasteur Jones, ça s'appelle Monsieur Ricou, n'est-ce pas ? Il publie en 1847 une Bible aussi en breton. John Jenkins meurt en 1872 et c'est son fils Alfred Jenkins qui lui succède. Il sera pasteur à Morlaix jusqu'à sa mort en 1820. L'œuvre de Morlaix, qui existe encore, dépend et est venue justement de l'œuvre de ces gens-là. Pour ce qui est de la Basse-Bretagne, cette région va bientôt aussi être évangélisée. Et un autre Gallois, en 1842, débarque à Saint-Malo, il se nomme Jones Williams. Il va établir des églises méthodistes, lui c'est un méthodiste, il établira des églises méthodistes à Saint-Malo et à Saint-Servan. Dans le même temps, un pasteur du cru, un breton qui s'est converti et qui lui aussi donc s'est tourné vers l'évangile véritable, devient pasteur à Brest, il se nomme le pasteur Le Foudré. Et John Williams s'établit en 1844 à Quimper, où existent déjà où se sont établies avant lui plusieurs familles protestantes, ce qui lui sert d'une base de départ pour l'évangélisation de la côte sud de la Bretagne. John Williams est un anti-catholique virulent. outre ces travaux d'évangélisation, il passe beaucoup de temps à pourfendre le catholicisme, ce qui n'est peut-être pas la chose la plus adroite qu'il ait faite. Dans un pays aussi marqué par le catholicisme, attaquer ainsi le catholicisme de front, c'était évidemment couper des bâtons pour se faire battre, ça ne manque pas. Et sa popularité en prend un coup, tellement, n'est-ce pas, qu'il est même dénoncé aux renseignements généraux à cette époque-là, et les renseignements généraux le soupçonnent d'être un agent de l'Intelligence Service, un espion britannique en quelque sorte, n'est-ce pas, et lui met de nombreux bâtons dans les roues. John William est un homme qui déborde d'activité, notamment il fait beaucoup de réunions de plein air, il a un petit harmonium qu'il promène un peu partout et il joue des cantiques en chantant et en proclamant l'évangile. On ne compte plus les tomates qu'il a reçues, les œufs pourris et choses semblables, n'est-ce pas, ça faisait partie du folklore, n'est-ce pas, et c'était quand même quelqu'un qui était à ce niveau-là extrêmement courageux. En tout cas, en 1847, il inaugure un temple à Quimper. À partir de là, il entreprend un vaste travail de colportage dans toute cette région sud de la Bretagne. Il va être relayé par un Finistérien qui s'est converti entre-temps, qui se nomme Lebescar, et qui sera à ses côtés évangéliste jusqu'en 1851. Et cette année-là, c'est l'année donc où le prince Louis-Napoléon est arrivé au pouvoir et l'anticatholicisme de Napoléon III est extrêmement fort, dans ses premières années en tout cas, et des lois restrictives, coercitives sont publiées, de telle manière que le colportage est officiellement interdit. Williams et son équipe n'en ont cure, ils continuent à colporter, ils sont arrêtés, emprisonnés, et puis finalement on finit par les libérer. Mais les réunions, notamment les réunions de plein air, sont désormais interdites. À partir de 1851, on installe également un pasteur à Lorient. Lorient, où se trouvent plusieurs familles protestantes, qui sont souvent des officiers de marine. On ne sait trop pourquoi, mais la marine de guerre a toujours attiré les protestants. Les protestants sont en nombre relativement important pour leur importance numérique en France dans la marine de guerre, tant et si bien que dans les ports de guerre, Lorient et Brest en particulier, eh bien, il y a toujours un petit noyau de protestants qui sont tout simplement les familles des officiers de marine protestants qui sont ainsi basés dans ces ports. C'est ainsi donc que jusqu'en 1865, il y aura un culte protestant qui sera assuré à Lorient. Et c'est un peu plus tard que le temple de Lorient, on construira un temple à Lorient. Par contre, Abbé Naudet, Williams, reconnaît un échec retentissant. En 1873, il publie un recueil de psaumes traduits en breton, qui sont d'ailleurs chantés, il les chante. Il les a mis en musique et il les chante. Et c'est alors que les évêchés de Bretagne engagent une campagne très vive contre les missionnaires gallois, en disant ceci: les sectes protestantes déchirent notre malheureux pays. Voilà, c'est assez piquant, assez cocasse, n'est-ce pas? On croirait entendre des choses à peu près actuelles, voyez-vous. En 1869, Williams tombe malade et il rentre au pays de Galles. Mais deux de ses convertis poursuivent l'œuvre avec courage sur place. Il s'agit de M. Rouffet et de Pierre Le Croignec. Et notamment, Le Croignec est un enseignant au collège de Quimper. Et un jour, quand les autorités du collège apprennent que Le Croignec prêche l'évangile en dehors de ses activités scolaires, alors ça fait un drame. Et finalement, Le Croignec est destitué de son poste d'enseignant au collège de Quimper. Voyez-vous qu'à cette époque-là, ça ne rigolait pas. En 1877, il devient directeur de la Société évangélique de Paris et il est remplacé en Bretagne par un certain H. Roberts, qui est un Gallois aussi, qui est arrivé du Pays de Galles. Il va rester peu de temps et il rentrera en 1880 au pays de Galles. C'est l'époque où le père de Le Croignec se convertit Et il se met lui aussi à colporter, il devient colporteur de 1871 à 1876. Le malheureux lui aussi va être victime de nombreuses vexations, persécutions, jets de tomates, de pourris, et parfois même de choses plus redoutables que ça, des menaces de mort. On va jusqu'à saisir ses livres et les brûler. C'est un moment particulièrement difficile. C'est alors que Lorient et Quimper deviennent des annexes de Brest. Brest, où le pasteur Le Foudray continue à officier essentiellement dans le cadre aussi des protestants qui sont dans la marine. Et cela jusqu'à ce qu'en 1882, John William revienne en Bretagne. Il s'installe 18 mois à Rospordun, puis à Concarneau. Ça n'est pas concluant. Finalement, il revient à Quimper et puis surtout à Pont-l'Abbé. Il s'installe à Pont-l'Abbé et il va évangéliser la région de Pont-l'Abbé de 1884 à 1885. Il est secondé par un jeune évangéliste qui vient du pays de Galles, qui se nomme Evans Jones, et qui restera 24 mois à Pont-l'Abbé. Là-bas, ils ont loué un bateau. Et à partir de ce bateau, ils évangélisent tous les ports bretons. Ils vont d'un port breton à l'autre, notamment Douarnenez, qui va être l'objet de leurs efforts d'évangélisation pendant ces années-là. Et comme résultat de leur travail, en 1889, deux églises seront installées, une à Pont-l'Abbé et une à Douarnenez. En 1899, ce sont d'autres églises qui sont installées sur la côte sud, à Saint-Guénolé, Le Guilvinec, puis en 1902, au début de notre siècle, à l'Échiagat et à l'Esconil. En 1877, on compte à Quimper 77 familles protestantes, 52 à Pont-l'Abbé, 22 à Douarnenez, 140 à l'Esconil, et 40 dans l'agglomération Le Guilvinec, les Chagattes. En fait, pour toute cette région, on compte 331 familles protestantes. Et actuellement, l'essentiel du protestantisme réformé est le résultat de ce travail-là. Le pasteur Le Foudray meurt en 1854 et il est remplacé par le pasteur Chapal. Le temple, on commence à construire un temple en 1856, lequel est terminé donc en 1867. Chapal meurt en 1876 et lui succède le pasteur Boucher. En 1856, John Jenkins fonde une école ambulante, parce que les protestants aussi ont à cœur non seulement l'évangélisation, mais également l'instruction des enfants. Il faut que les enfants soient capables de lire la Bible. On ne peut pas être pieux et ignorant. On ne peut pas être pieux et illettré. Il faut pouvoir avoir un minimum d'instruction pour pouvoir lire la Bible et pour pouvoir donc devenir un homme de Dieu digne de ce nom. Et les missionnaires gallois vont avoir une œuvre d'installation d'école extrêmement importante. Donc, école ambulante, un petit peu comme aura l'idée de faire le frère Le Cossec pour ce qui concerne les gitans. Bon, c'est pas très probant. Et finalement, le petit-fils de M. Ricou, un des premiers traducteurs de la Bible en breton, qui se nomme Guillaume Le Couat, va construire une école à Trémel. Trémel, où un temple, entre-temps, a été construit, il a été fermé, puis en 1870, il est réouvert. Et c'est ainsi que Guillaume Le Couat, qui était d'ailleurs un séminariste, il était entré au séminaire pour devenir prêtre, et puis c'est là qu'il rencontre l'Évangile, il se convertit, et il va finir par devenir pasteur, c'est ça. Mais entre-temps, il est aussi un enseignant, et il va entreprendre au centre-Bretagne toute une œuvre d'évangélisation et en même temps d'alphabétisation. Les choses vont de pair. Et il utilise souvent d'ailleurs l'œuvre d'alphabétisation pour l'évangélisation. C'est-à-dire que les Bretons qui à cette époque-là sont en général assez illettrés, surtout au centre-Bretagne, sont heureux d'avoir des écoles, des gens qui s'occupent de leurs enfants. Et bien entendu, non seulement on enseigne aux enfants à lire, à écrire et à compter, mais dans ces écoles-là, on leur enseigne aussi l'Évangile. Et c'est ainsi que, en 1885, le pasteur Le Couate ouvre un orphelinat à Trémel. Un orphelinat qui va durer jusqu'à il y a quelques années, qui sera ensuite récupéré par les baptistes. Et à partir de Trémel, il va évangéliser Carré, Ouedgouat, Poulaouen et le Guilly. Le Guilly où va être créé une école, c'est pas tout un grand centre là qui va rayonner pendant un certain nombre d'années dans toute cette région du centre-Bretagne. Et les vieilles personnes se souviennent encore aujourd'hui de cette période-là. Et certains sont encore des anciens élèves de ces écoles qui ont été créées par le pasteur Le Couate. Le Couate est aussi quelqu'un qui se rend compte que non seulement il faut instruire les enfants, mais également il faut donner du travail aux jeunes. C'est aussi l'époque où le centre Bretagne se dépeuple, c'est le premier choc industriel, l'exode rural, et les Gallois ont beaucoup plus de vision que ne faisaient les réformés, qui confrontés à ce même phénomène de l'exode rural vont être passifs. Finalement, les Gallois vont réagir. Et le Couate va créer donc une fabrique de lin pour tenter d'enrayer l'exode rural au centre Bretagne. Ce serait un échec, mais la tentative est tout à fait intéressante. Le Couate va mourir en 1914, et c'est Georges Somerville, le père de Robert, qui lui succède à cette période-là. C'est aussi en 1802 qu'un Breton, se nomme Le Cor, crée la mission évangélique de Plougrescamp. Il le fait à partir de familles anglaises qui sont installées sur la côte d'Émeraude, mais aussi dans la région de Lamballe, de Quentin et même de Rennes. À Saint-Brieuc, il y a aussi quelques protestants, jusque vers Saint-Sanson, qui sont essentiellement des Suisses et des Hollandais qui sont installés dans la région. De telle manière qu'à partir de 1822, va se créer d'une manière régulière un culte anglican à Saint-Servant. Puis ensuite en 1839 à Saint-Malo et à Rennes et à Nantes. Donc à côté des baptistes et des méthodistes en Bretagne, il va y avoir un culte anglican dans un certain nombre de lieux, mais qui va rester limité aux étrangers. Finalement, le culte anglican, contrairement à ce qui se passe pour les méthodistes et pour les baptistes, ne mordra pas sur la population locale. À Nantes, il existe une église réformée qui est implantée depuis longtemps et qui est surtout fréquentée par des grands bourgeois de Nantes. À cette époque-là, c'est le pasteur Varugo qui en est le pasteur et qui est un des chefs de file des orthodoxes au sein de l'Église réformée, de telle sorte qu'il a une grande influence sur Nantes et les protestants seront bien en cours dans la ville de Nantes, au point qu'à cette période-là, il y aura même un maire protestant à Nantes. Et vous, c'est le summum de la réussite. Un petit peu plus au sud, donc en Vendée et en Poitou, on enregistre une période de stagnation. Le Poitou et la Vendée sont déchirés par les querelles entre libéraux et orthodoxes, bien que cette région, surtout la Vendée, reste majoritairement orthodoxe. L'influence du pasteur Varugo y est évidemment pour quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'à cette période-là, le protestantisme poitevin soit insignifiant et inexistant et inactif. Et en 1871, par exemple, en Poitou, le pasteur Émile Nalin crée le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole est une banque protestante au départ qui a été créée par un pasteur ici dans l'Ouest. C'est devenu aujourd'hui une des plus importantes banques de France, qui n'a plus rien de protestant, bien entendu, mais au départ, ça l'était. En 1806, les protestants créent la première coopérative fromagère. Et vous, là, il y a des initiatives qui sont tout à fait intéressantes. Et en 1888, la première coopérative laitière est créée par des protestants en Charente-Maritime. En 1897, c'est à la Motte-Saint-Héret qu'une coopérative du même genre est créée. Et puis, les protestants ont aussi à cœur de la diffusion de l'écrit. C'est pas, on a vu l'action des colporteurs, mais finalement, en Poitou, on emploie une autre manière de faire assez originale. C'est la création d'un journal, un petit peu, si vous voulez, à l'image du Regard d'Espérance. Le regard d'espérance, finalement, reprend une vieille idée qui a été celle de deux pasteurs poitevins du XIXe siècle, Georges Cadier et Honoré Caron, qui, en 1904, vont créer un petit journal qui s'appelle La Fraternité. Alors, La Fraternité, c'est un journal protestant, mais qui traite de tous les sujets, qui n'est pas un journal d'évangélisation au sens propre du terme, qui va donner des nouvelles de tout, et qui comprend bien entendu aussi une petite note évangélique. Et la volonté de ces éditeurs, c'est qu'ils soient ouverts à tous, à condition évidemment que les idées qui soient exprimées dans ce journal soient des idées qui ne soient pas extrémistes, quoi. Et donc c'est un journal qui se veut indépendant politiquement et libre de toute obédience. Et finalement, ce journal va perdurer jusqu'à nos jours. Et dans la région du Poitou protestant, il est encore diffusé sous un autre nom qu'il a pris après la Deuxième Guerre mondiale. Il a pris le nom de La Concorde. Il n'est plus protestant que de très loin. Finalement, il a été pas mal déprotestantisé, mais c'est un petit journal d'annonces locales, de nouvelles locales, un petit peu, si vous voulez, comme qu'est-ce qu'on a avant maintenant, quelque chose de semblable là qui vient de, comment ça s'appelle, Voix d'Info, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Donc voyez-vous qui ne date pas d'aujourd'hui. Et puis finalement, en 1908, on va créer un journal alors là beaucoup plus confessionnel, qu'on appelle le Poitou protestant, qui deviendra ensuite le Protestant d'Ouest, et qui est l'organe en quelque sorte des églises protestantes de la région. Alors voilà en gros, si vous voulez, comment se situe le protestantisme à cette période-là dans l'Ouest. Maintenant, voyons ce qui se passe au niveau des églises baptistes, de l'évolution des églises baptistes que nous avons vu donc avec Jean-Baptiste Crétin, la vie et le ministère de Jean-Baptiste Crétin. Après la mort de Jean-Baptiste Crétin, l'élan qu'il a donné se poursuit. Et notamment, c'est dans la région de l'Oise que l'effort baptiste va se poursuivre, c'est-à-dire, si vous voulez, au nord de Paris, nord-est de Paris, puis ensuite à Paris même, à Paris où l'implantation baptiste va se faire très forte. Le temple de Saint-Sauveur a été construit en 1873 et 1874, nous avons vu cela la dernière fois, sous l'influence de Jean-Baptiste Crétin, qui y a pratiqué les premiers baptêmes le 1er novembre 1839. Donc ça a été le début de l'évangélisation dans la région de Saint-Sauveur. Et c'est en 1868 que l'église, comme on l'appelle à cette époque-là, l'église des environs de Saint-Sauveur est officiellement créée sous l'impulsion de Jean-Baptiste Crétin. Jusqu'alors, il n'y avait eu aucun culte, aucun lieu de culte attitré, si j'ose dire. Les cultes avaient lieu dans des maisons privées, souvent d'ailleurs d'une manière plus ou moins clandestine, puisque les lois étaient restrictives à cette période-là. Il faut dire qu'il y avait dans la vallée de l'Oise un terroir qui était favorable à la prédication de l'Évangile. En effet, sous Louis XIV, un certain nombre de Huguenots étaient venus se réfugier dans la région. Et il y avait pas mal de descendants de ces Huguenots qui se trouvaient dans cette région de l'Oise. La marque protestante y était demeurée relativement forte, d'autant que même à cette période, un certain nombre de gens étaient morts martyrs. Et c'est donc dans cette région qu'a eu lieu donc une partie du réveil baptiste du début du siècle. Il y avait eu un autre lieu où le baptisme s'était implanté, c'était la région de Chauny, où un temple avait été en exercice de 1844 en 1850, et en 1850, ce temple avait été fermé par Napoléon III, au moment où les lois restrictives dont nous avons parlé tout à l'heure avaient été édictées. En 1835, nous avons vu que l'église de Denain était née, et puis dans le même temps avait été créée à Douai, à quelques kilomètres de Denain, une vingtaine de kilomètres de Denain, une école pastorale, qui était l'école pastorale baptiste. En 1845, malheureusement, cette école pastorale avait connu un drame, en ce sens que le pasteur Foulbeuf, qui en était le directeur en quelque sorte, était mort brusquement à l'âge de 31 ans, atteint par une crise cardiaque. Il avait fallu faire appel à Jean-Baptiste Crétin, qui l'avait remplacé au pied levé, et en 1848, la liberté religieuse avait été proclamée donc par la Deuxième République, de telle sorte que le mouvement baptiste avait pu s'ériger en une association d'églises libres, c'est-à-dire non payée par l'État. Malheureusement, cette liberté avait été de courte durée, puisque dès le début des années 50, nous l'avons vu, Napoléon III avait multiplié les vexations et les persécutions. Néanmoins, un synode constitutif avait eu lieu en 1849, comprenant Edmond de Pressensé, Frédéric Monod et le pasteur de Gasparin. Donc, 1851, interdiction de prêcher l'évangile en dehors des temples. Les baptistes n'en ont pas toujours. Celui de Chauny est fermé. Et finalement, on est obligé de revenir à des réunions clandestines. À Saint-Sauveur, où il s'est installé entre-temps, le curé du coin espère dénoncer Jean-Baptiste Crétin pour le faire déporter comme forçat à Cayenne. Rien que ça. Ça vous montre la charité chrétienne qui animait cet individu. Et finalement, quand Jean-Baptiste Crétin quitte Saint-Sauveur, il est remplacé par François Lemaire, qui restera pendant 30 ans à partir de 1814. Il est un des étudiants qui est issu de l'école pastorale de Douai. Et puis, à Denain et à Anzin, Jean-Baptiste Crétin se voit succéder par François Vincent. Et c'est en 1882 que Philémon Vincent, le fils de François, fonde la première église baptiste de Paris, qui se trouve avenue du Maine, et il en sera le pasteur jusqu'à sa mort en 1829. C'est son fils Henri Vincent qui le remplacera alors, n'est-ce pas ? Pour ce qui est de Saint-Sauveur, les cultes ont lieu dans une salle qui est louée, une salle de danse d'ailleurs. Et c'est en 1873... après l'effondrement du Second Empire, quand la liberté religieuse revient avec l'établissement de la Troisième République, qu'on peut envisager la construction d'un temple à Saint-Sauveur. Il y a là toute une œuvre qui est... œuvre de la vallée de l'Oise, qui est encore aujourd'hui une église baptiste importante pour ce qui est de la fédération baptiste. Dans le même temps, donc, l'œuvre va se répandre aussi sur Paris. De la vallée de l'Oise, nous avons vu, est arrivé donc le fils de François Vincent, qui se nomme Philémon Vincent, qui est arrivé à Paris. En fin de compte, Philémon Vincent n'était pas le premier baptiste qui s'établissait à Paris. Il est difficile de donner une date au début de l'œuvre baptiste à Paris même, parce que dès 1839, dès décembre 1839, on trouve trace de petits groupes de chrétiens baptisés qui se rassemblent rue de Saint-Étienne dans une maison privée. C'est en fait le point de départ de ce qui deviendra plus tard la principale église baptiste de Paris jusqu'à nos jours, l'église de la rue du Maine. De la rue Saint-Étienne, les quelques chrétiens baptisés qui se trouvent à Paris à cette période-là migrent dans un autre endroit, là, le 10 rue de Saint-Roch, où ils reçoivent Spurgeon. Spurgeon, le grand missionnaire baptiste, le grand pasteur baptiste anglais de cette période-là, qui évangélise l'Angleterre et qui sera invité par ce petit groupe, n'est-ce pas, à venir visiter la France. De la rue Saint-Roch, le groupe migre encore dans une nouvelle adresse, rue de Chelles, où un petit local est loué avec l'aide du comité baptiste américain de Boston. Et c'est alors que les baptistes français vont nouer des relations étroites avec les baptistes de Boston. Nous l'avons vu, c'était déjà le cas pour ce qui était de Jean-Baptiste Crétin, de ce qui était autour de lui. Mais ceux de Paris, donc, vont être directement aidés par les Américains. C'est d'ailleurs une mauvaise habitude qui va être prise par les baptistes jusqu'à nos jours. Et les baptistes français ont gardé l'habitude d'être soutenus par les Américains. Ce qui n'est pas sans des inconvénients, d'ailleurs. À cette époque-là, donc, les premiers prédicateurs sont Aimé Godot, qui n'est pas un pasteur, qui est un laïc, n'est-ce pas ? C'est quelque chose d'assez informel jusqu'alors. Puis ensuite, on trouve un pasteur, se nomme Enduc, avant que ce ne soit donc Philémon et puis Samuel Vincent qui viennent créer une église à Paris. En 1887, donc, Philémon et Samuel Vincent arrive à Paris pour développer l'œuvre. En 1892, donc une douzaine d'années, quelques années après, L'œuvre comptera 192 membres et l'année suivante 265 membres. C'est-à-dire que là, on assiste à une progression extrêmement importante. Et le jour de Noël 1894, on dénombre 600 auditeurs au culte de Noël de cette année-là. Je suis sûr qu'aujourd'hui, dans cette église baptiste de France, il est difficile de trouver un auditoire de 600 personnes. Les frères Vincent créent un petit journal qu'ils appellent « La pioche et la truelle », qui évoque ce qu'est leur programme, un programme de défrichement, un travail de construction, c'est-à-dire un travail d'évangélisation. Les deux frères ont des talents d'évangéliste extrêmement importants, et puis surtout, n'est-ce pas, Philémon Vincent a des talents de journaliste. Et il va développer considérablement ce petit journal qui s'appelle « La pioche et la truelle ». Et dès le numéro 4, ce numéro 4 est tiré à 16 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'il a un impact extrêmement difficile. Ce qui ne veut pas dire, extrêmement important, ce qui ne veut pas dire que pour les frères Vincent, la situation n'est pas extrêmement difficile. En effet, le 18 octobre 1895, Philémon Vincent est destitué par le comité de Boston parce que, précisément, il n'a pas voulu se soumettre à certaines des injonctions du comité qui voulait diriger, en fin de compte, l'Église depuis Boston. Et finalement, appuyé par les membres de son Église, Philémon Vincent décide de dire non aux baptistes américains. Les baptistes américains le destituent et nomment un autre pasteur à sa place. Et les baptistes doivent quitter le local que leur avaient fourni les Américains. L'inconvénient d'être soutenu par les Américains. Ils avaient un local rue de Lille et ils doivent le quitter. D'autant que toute l'Église a refusé de se désolidariser de son pasteur. Et Philémon Vincent, qui doit quitter les locaux de la rue de Lille, le fait avec quasiment toute son Église. Il loue un local 12 rue des Gobelins et... c'est un coup dur pour cette église. C'est un coup très très dur, car ils ont beau être relativement nombreux, c'est une église très pauvre, car les baptistes qui sont convertis sont des gens simples, des ouvriers qui n'ont pas beaucoup de moyens, et les offrandes permettent tout juste au pasteur de vivre. Il est donc hors de question de louer et encore plus de construire ou d'acheter des locaux importants. Et c'est alors que Philémon Vincent décide de faire un pas de la foi et de construire une église en plein cœur de Paris. Il ne faut rien moins d'un miracle. Et il faudra que, surtout dans ces conditions où ils sont sur la rue, où ils ont donc des loyers importants à payer parce que, dès cette période-là, trouver un local en plein centre de Paris, ça coûte extrêmement cher. Et en plus de cela, il faut donc trouver de l'argent pour construire pierre par pierre un nouveau lieu de culte, un nouveau temple. Il y a aussi beaucoup de cas sociaux dans cette église baptiste de Paris, de telle sorte qu'il faut aussi subvenir aux besoins de ses membres qui sont en difficulté. Et finalement, malgré ces inconvénients, malgré ces impossibilités, l'Église décide de faire par la foi, n'est-ce pas, le pari de construire une nouvelle Église. Après avoir prospecté, on décide de trouver un terrain dans le faubourg de Montparnasse. Après que l'on ait fait une dernière tentative auprès du comité de Boston pour essayer de récupérer les locaux de la rue de Lille. Cette construction va prendre 5 ans. C'est assez remarquable. Et c'est le 31 décembre 1900 que débute la collecte qui va permettre de financer la construction de ce qui deviendra l'église baptiste du 123 de l'avenue du Maine. On avait acheté un terrain en 1887. En 1887, donc, on achète également le terrain 123 avenue du Maine. Mais là, les difficultés commencent immédiatement. Car les voisins ne voient pas d'un bon œil cette secte pernicieuse qui s'installe dans cet endroit-là. Et tous les riverains de l'avenue du Maine font des pétitions à la mairie de Paris pour que l'autorisation de construire un temple soit retirée donc aux baptistes. Et finalement, les baptistes ont le droit, pendant quelque temps, d'installer un baraquement précaire, n'est-ce pas, qu'à se dire quelque chose qui est susceptible d'être démoli. Et il y a toute une bataille juridique qui dure plusieurs mois, jusqu'à ce que finalement les baptistes fassent valoir leurs droits et ils reçoivent de la République, qui est quand même libérale à cette période-là, l'autorisation de construire un temple de 600 places, avec deux étages et galeries, raccordés à un immeuble qui comprendra des salles annexes. Finalement, le projet est vraiment très ambitieux, trop ambitieux. On renoncera à la deuxième galerie et donc à un bon nombre de places. C'est le 8 juin 1899 qu'est donné le premier coup de pioche de l'église. Il faudra creuser 20 mètres en profondeur pour pouvoir asseoir des fondations sûres. C'est pas tant le terrain là-bas est en mauvais état, etc. Et finalement, après ces 5 années, eh bien, le 17 décembre, l'inauguration a lieu en présence de 700 habitants. Le miracle a eu lieu. Le Seigneur a pourvu miraculeusement pour la construction de cette église. Philémon Vincent est un homme aussi qui est un lettré, et c'est un érudit. Il travaillera aussi à la traduction de la version synodale de la Bible, n'est-ce pas ? Il donnera aussi certainement son ton à cette version qui est encore très bonne, malheureusement on ne la trouve plus. Et en 1900, donc, il y a officiellement dans l'église baptiste de l'avenue du Maine 200 baptisés. L'église baptiste de l'avenue du Maine est en relation avec les églises du Nord, puisque la famille Vincent continue à avoir des attaches dans le Nord de la France, et puis aussi en Belgique. Et c'est au congrès de 1905 que la Fédération des Églises Baptistes naît officiellement. Philémon Vincent va en être une des chevilles ouvrières extrêmement importantes, et quelques années plus tard, la Fédération Baptiste va adhérer à la Fédération Protestante. Les baptistes de la ville du Maine vont s'investir aussi énormément dans la lutte contre l'alcoolisme, contre l'immoralité, contre la prostitution. Philémon Vincent militera dans la Croix-Bleue, qui est un organisme protestant qui a été créé à cette période-là pour lutter contre l'alcoolisme, qui n'est pas spécialement baptiste, mais qu'il va rejoindre et dans laquelle il va engager vraiment toute l'Église. Et c'est l'époque où a lieu aussi tous les efforts de la mission McHall, dont nous avons déjà parlé. Bon, il y a une très grande fraternité entre la mission McHall et les baptistes qui sont sur Paris. Et on peut dire que c'est vraiment la grande époque de l'expansion du réveil baptiste en France, avec toutes les limites que la France catholique peut mettre à cette expansion au regard de pays voisins comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne, par exemple, dont nous avons parlé la dernière fois. Néanmoins, les églises baptistes sont aujourd'hui encore une des plus anciennes unions d'églises évangéliques nées au siècle dernier. C'est relativement récent, mais finalement, c'est une des unions d'églises les plus représentatives aujourd'hui en France de la branche évangélique. Voilà, si vous voulez, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui là-dessus. Est-ce que vous avez des questions à poser ?